de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta, dimanche le 10 mai 2020. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La Suisse autorise des réunions jusqu'à 1000 personnes à partir de la semaine prochaine. » Les États-Unis et la Russie discuteront l'accord sur le contrôle des armes. L'AITHR appelle à la protection des réfugiés en pleine pandémie de COVID-19. L'Indonésie et la Malaisie développent des couloirs de voyage communs. Pour encourager l'enthousiasme de petites et moyennes entreprises, les ministères de l'Industrie organisent une formation numérique. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Les autorités suisses autoriseront une réunion rassemblant jusqu'à 1000 personnes à partir de la semaine prochaine. Cette décision a été prise alors que le pays entrait dans la quatrième étape de l'assouplissement progressif des restrictions pour contrôler la propagation du coronavirus. Rapporté par l'AFP samedi dernier, la Suisse a été classée comme ayant réussi à éviter la pire situation de la pandémie de corona, bien que ce pays borde directement le nord de l'Italie, qui était devenu le centre d'une pandémie en Europe. Dans la dernière annonce de vendredi, heure locale, les autorités suisses ont déclaré que les règles de maintien de la distance physique avaient été assouplies de 2 mètres à 1,5 mètre à partir de lundi prochain. Ensuite, le couvre-feu qui s'applique aux restaurants et aux boîtes de nuit sera levé. Le ministère américain des Affaires étrangères a déclaré que le représentant spécial du président américain, Marshall Billingslea, se rendrait en Autriche la semaine prochaine. Il discutera des sujets convenus par les deux parties concernant l'avenir du contrôle des armements avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. C'était selon le ministère des Affaires étrangères des États-Unis dans leur déclaration de samedi. Le président américain Donald Trump a demandé à plusieurs fois à la Chine de se joindre aux États-Unis et à la Russie dans des pourparlers sur le contrôle des armements qui remplacerait l'accord New START ou traité sur la réduction des armements stratégiques. L'accord expirera en février de l'année prochaine. New START remplace l'accord de Moscou ou SOFT qui a pris fin en décembre 2012. Cet accord est la continuation du START 1 qui a pris fin en décembre 2009, l'accord START 2 qui n'a jamais été appliqué et les négociations de l'accord START 3 n'ont jamais été achevées. La Chine, qui aurait 300 armes nucléaires, refuse à plusieurs reprises l'invitation de Trump. La représentante de l'Indonésie pour la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN, ou abrégée en AITHR, Yuyun Wahyuningrum a appelé à la protection des réfugiés et des migrants dans la région de l'Asie du Sud-Est dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Dans une déclaration écrite prononcée samedi à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés 2020, Yuyun s'est dit préoccupé par le fait que les réfugiés et les migrants aient été exclus dans l'accès aux informations sur le COVID-19, les services de santé, les tests, les soins, le fonds d'assistance sociale et les colis alimentaires. Elle a aussi expliqué que non seulement la peur de l'infection, les migrants et les réfugiés étaient également soumis à la xénophobie et à la haine et persécutés par les autorités. Au nom du contrôle de la propagation du COVID-19, plusieurs pays membres de l'ASEAN ont lancé des raids, capturé, détenu, déporté et refusé à leur navire de débarquer. Par conséquent, Yuyun a demandé aux pays membres de l'ASEAN d'arrêter cette activité. Les États membres doivent donner la priorité à sauver des vies et offrir une protection à ceux qui ont en besoin, quel que soit leur statut d'immigration. L'Indonésie et la Malaisie ont convenu de travailler ensemble pour reconstruire le tourisme et l'économie créative dans chaque pays dévasté par la pandémie de COVID-19, entre autres en construisant un couloir de voyage partagé. Le vice-directeur du marketing du ministère du Tourisme et de l'économie créative ou Agence de tourisme et d'économie créative République d'Indonésie, Nia Niscaya, dans sa déclaration de samedi à Jakarta a déclaré que la Malaisie était l'un des partenaires importants du tourisme indonésien. La Malaisie a été l'un des plus gros contributeurs de touristes étrangers en Indonésie. En 2019, 2,09 millions de touristes de Malaisie ont visité l'Indonésie. Elle a dit que l'Indonésie et la Malaisie ont une longue histoire de coopération dans divers secteurs, en particulier le tourisme. Il est donc très important d'accroître conjointement la coopération dans le cadre d'un effort commun pour lutter contre la COVID-19. Nia était la conférencière invitée au talk show Network Industry Travel avec le ministre malaisien du Tourisme, des Arts et de la Culture, Dato' Sri Nancy Shukri, sur le thème Regional Tourism Collaborative Opportunity Post-COVID-19 vendredi dernier. Le ministère de l'Industrie organise de plus en plus activement une formation numérique pour les petites et moyennes entreprises en raison de la pandémie de COVID-19 qui doit respecter le protocole de santé. La formation est réalisée pour que les entrepreneurs nationaux de petites et moyennes entreprises restent productifs afin de pouvoir stimuler l'économie nationale. La directrice générale des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsih à Jakarta, a déclaré vendredi dernier que la pandémie de COVID-19 avait un grand impact sur la situation de l'économie indonésienne. Par conséquent, tous les efforts conjoints doivent être faits pour maintenir et restaurer le secteur industriel, y compris les petites et moyennes entreprises. Gati a expliqué que l'une des mesures stratégiques prises par le gouvernement visait à empêcher un déclin de la production et à relancer le secteur industriel, à savoir la mise en œuvre d'un programme d'amélioration des compétences en ressources humaines par l'atelier en ligne. Voilà les journaux d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Toutes les étapes rapides et précises du gouvernement doivent être responsables ». Le président Joko Widodo, lors de l'ouverture de la réunion de coordination nationale du contrôle interne du gouvernement 2020 par vidéoconférence du palais de Merdeka, province de Jakarta, lundi dernier, a révélé que toutes les mesures rapides et précises du gouvernement doivent être responsables pour la gestion des pandémies COVID-19. En outre, le président a révélé qu'actuellement, le monde fait face aux conditions extrêmement difficiles. 215 pays sont confrontés aux urgences sanitaires et doivent sauver leurs citoyens de la menace de COVID-19. Tous les pays ont lutté pour se sauver de terribles pressions économiques, la demande, l'offre et la production perturbées. Le président Joko Widodo a déclaré que la croissance économique mondiale a fortement lutté d'éviter la récession. Selon le président, une telle situation nécessite une réponse rapide et précise du gouvernement. Le président a déclaré que dans le secteur de la santé, toutes les parties doivent contrôler COVID-19 afin qu'il ne se propage pas plus largement. Pour ceux qui sont en bonne santé, ne devraient pas attraper la maladie. Et pour ceux qui sont malades, ils doivent être soignés jusqu'à guérison. En outre, selon le président, dans le domaine socio-économique, le gouvernement doit également garantir aux pauvres et aux citoyens malades de COVID-19 une protection et une assistance sociale. À cette occasion, le président a rappelé que le gouvernement avait ajouté le budget de gestion de la pandémie de COVID-19 de 677,2 billions de roupias à 695,2 billions de roupias. Il a ajouté deux postes, à savoir le financement des entreprises et l'assistance aux ministères ou institutions sectorielles et aux gouvernements locaux. Par ailleurs, le ministre des Finances, Sri Mulyani, espère que le coût de la gestion de la pandémie pourra réduire la forte pression sur l'économie au deuxième trimestre 2020. Le budget de gestion de COVID-19 a subi plusieurs changements. En mars 2020, a déclaré Sri, le gouvernement a préparé 405,1 billions de roupias pour faire face à la pandémie. Cependant, le président Joko Widodo a tenu une réunion limitée au début de juin. Sri a annoncé un budget plus important de 677 200 milliards de roupias. Le président a également invité les vérificateurs à bien superviser afin que les fonds importants puissent aider le public et les gens d'affaires qui éprouvent des difficultés. Voici la mise au point de la semaine. L'histoire d'aujourd'hui, le 21 juin. On commence par le 21 juin 1905, la naissance de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est un philosophe contemporain et écrivain français qui a développé l'existentialisme. Il était l'une des figures clés de la philosophie de l'existentialisme et de la phénoménologie, et l'une des figures de la philosophie et du marxisme français au XXe siècle. Ses œuvres ont également influencé la sociologie, la théorie critique, la théorie postcoloniale et les études littéraires. Jean-Paul Sartre, né le 21 juin 1905. On lui a donné le prix Nobel de la littérature en 1964, mais Jean-Paul Sartre l'a refusé. Le 21 juin 1961, la naissance de Joko Widodo. Monsieur Haji Joko Widodo, ou Jokowi, est le 7e président indonésien qui a pris ses fonctions le 20 octobre 2014. Élu à l'élection présidentielle de 2014, Jokowi est devenu le premier président indonésien de l'histoire qui ne vient pas de l'élite politique ou militaire indonésienne. Il a été élu avec le vice-président Muhammad Yusuf Kalla et réélu avec le vice-président Ma'ruf Amin lors de l'élection présidentielle de 2019. Jokowi était gouverneur de DKI Jakarta du 15 octobre 2012 au 6 octobre 2014 avec Basuki Cahayapurnama comme vice-gouverneur. Le 21 juin 2015, on a célébré pour la première fois la Journée internationale de yoga. On célèbre la Journée internationale du yoga chaque année, le 21 juin depuis 2015, après son adoption à l'Assemblée générale des Nations unies en 2014. Le yoga est une pratique physique, mentale et spirituelle originaire de l'Inde. Le premier ministre indien, Narendra Modi, dans son discours aux Nations unies, a suggéré le 21 juin, car c'était le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord et diverses significations spéciales dans de nombreuses régions du monde. La première journée internationale du yoga a créé un record pour le plus grand cours de yoga et le plus grand nombre de pays participants. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Dalam dua matamu. C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, aujourd'hui, le magazine culturel vous invitera à visiter la grotte de Putri Asih à Tuban. Chers auditeurs, la grotte de Putri Asih est située dans le village de Mulyo Agung, au district de Tuban, à Montong, Java de l'Est. Cette grotte est très belle et au milieu d'une forêt de teck naturelle. La grotte de Putri Asih n'est pas trop éloignée du centre-ville de Tuban, surnommée la ville de mille grottes, à seulement 30 km environ. La grotte de Putri Asih a été découverte par un mineur de pierre, s'appelle Jiadi, le 6 septembre 2002. Au début, Jiadi a trouvé un trou de 30 cm. Il ne pensait pas que le trou était une grotte. Curieusement, Jiadi a mis un morceau de bois de 1 mètre dans le trou. Puis, le bois est tombé dans le trou. Finalement, parce qu'il voulait le savoir, Jiadi et ses amis ont essayé d'élargir le trou et y entrer. Dedans, ils étaient tous abasourdis par le paysage magnifique du trou. Les stalactites et les stalagmites sont si belles qu'ils n'ont pas été touchés par les humains. Même, de nombreuses stalactites et stalagmites sont encore en vie et peuvent encore pousser considérablement. Il y a une grande stalagmite de couleur bleuâtre qui ressemble à un châle de princesse. C'est pourquoi cette grotte s'appelle la grotte de Putri Asih ou la grotte de princesse Asih. Chers auditeurs, la grotte de Putri Asih n'est pas trop éloignée du centre-ville de Tuban, mais il est loin de l'autoroute. Donc, la grotte de Putri Asih est très intéressante en tant que lieu touristique, en particulier pour les aventuriers. Cette grotte n'a subi aucune modification. En fait, tous les sols sont encore en terre battue. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit aventureux, ça sera difficile de retracer le couloir de la grotte. L'autre beauté de la grotte de 4 hectares environ, dont l'allée est 250 mètres, est l'ornementation originale de la grotte avec différentes couleurs et formes de stalactites et stalagmites. Chers auditeurs, vous pouvez visiter ce lieu touristique en véhicule privé ou en transport en commun. Si vous prenez le transport en commun, vous pourrez aller du terminal de Tuban à Montong. Puis, vous passerez 2,5 km de la route rocheuse tout en regardant le charmant paysage. Pour entrer dans la grotte de Putri Asih, il vous suffit de payer 3000 rupiah. Si vous voulez passer la nuit, vous pouvez rester à Tuban, qui fournit des hôtels dont les prix sont variables, de 50 000 rupiah à 1 500 000 rupiah par nuit. Chers auditeurs, si vous aimez l'aventure, venez à Tuban et visitez la grotte de Putri Asih. Bon voyage!
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Bon, Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur. Cette édition parle de l'équipe de UGM a remporté la deuxième place du concours international de fusée. Gajah Mada Aerospace Team, ou abrégé en GMAT, a remporté la deuxième place du CANSAT Competition 2020. L'événement était organisé virtuellement par American Astronautical Society, ou abrégé en AAS. Le GMAT est une combinaison d'étudiants de l'Université Gajah Mada de divers majors pour participer à des compétitions aérospatiales régionales, nationales ou bien internationales. Des centaines de participants dans le monde ont pris part à ce concours de fusées et satellites. Ils viennent de divers pays comme le Mexique, l'Angleterre, l'Inde, la Turquie, l'Arabie Saoudite, la Pologne, le Brésil, la Corée du Sud, l'Argentine, la Thaïlande, le Canada, le Costa Rica et l'Azerbaïdjan. L'équipe de UGM était composée de Kendrick Chandra, Indra Budi Setiawan, Muhammad Diva, Mario Jaya, Wildan Purnomo, Mahatma Wisesa, Nico Renaldo, Lukman Al-Helmi, Muhammad Nur Ilmi et Nafisa Hasya. Cette équipe a fabriqué un véhicule de fusée dont la mission était Delta Wing Glider. Delta Wing est une coupe transversale plate d'une aile triangulaire. Dans cette compétition, l'équipe des États-Unis a remporté la première place, tandis que l'équipe de la troisième place était du Mexique. Kendrick Chandra du GMAT a déclaré que dans cette compétition, chaque équipe devait fabriquer un véhicule de fusée dont la mission était Delta Wing Glider pour envoyer des données atmosphériques. Le GMAT, guidé par Chatur Atmaji, a remporté avec succès la deuxième place du monde après avoir traversé une série de sélections rigoureuses depuis septembre 2019. Selon Kendrick, après l'enregistrement, il y a un examen préliminaire de la conception et un examen critique de la conception. Le juge du US Naval Research Laboratory a mené l'évaluation. La réalisation du GMAT est indissociable des préparatifs effectués depuis 2019. L'équipe a physiquement entamé la recherche et le développement du véhicule en plusieurs étapes, telles que la conception, la sélection des matériaux et la fabrication. Après cela, on a effectué plusieurs tests de faisabilité. Kendrick a déclaré que son équipe était fière de pouvoir présenter une réalisation qui a apporté le nom de l'Université de Gajah Mada et de l'Indonésie. Au début, le concours CANSAT 2020 se tiendrait en Virginie, aux États-Unis. Mais en raison de la pandémie de COVID-19, on a mené la compétition virtuellement, y compris l'annonce des gagnants virtuels le 16 juin 2020. C'est tout l'Indonésie en couleur.
Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu seakan tak mau hilang dariku. Oh, dariku. Tak akan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Tak pernah padam, oh no, tak pernah padam, oh no, oh, oh, oh. Api cintaku padamu, oh, 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 oh.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Waktu ku tahu buatku menangis, buatku bersedih, ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.
Dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Voice of Indonesia. L'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Dans cette édition, je vous présenterai une chanson du groupe Noah. Noah est un groupe composé de Ariel comme vocaliste, Uki comme guitariste, Lukman comme guitariste, David comme claviériste et de deux autres membres, Rio comme batterie et Lan-Lan comme bassiste. Après avoir sorti avec succès les singles Jalani Mimpi et My Situation, Noah a finalement publié la dernière chanson intitulée Wanitaku. Elle était la création de Ariel avec l'aide de musicien indonésien Pongki Barata. Cette chanson fait partie du quatrième album de Noah qui sortira en septembre 2019. Ariel a affirmé que pour le préparer, Noah avait besoin beaucoup de temps pour trouver l'inspiration. Mon cher ami, maintenant je vais dire bonjour à Merlin Mourad de BP15 4 Bicétif 19000 Algérie. Merci pour les rapports d'écoute. Et à Pierre Mouzolo Pouba de Box 545 Matadi 1 Congo Central RD Congo Central Africa. Et à Moro Giroletti de SWL 1510 de IK de GFT via Marzabotto, 720090 Bukinesco, Italie. Sergi Giovanni de Via Sibari, 398149 Messina, Italie. Et Omar Lassas de BP, 530 Bureau de Poste Emir AEK de 9008 Mascara, Algérie. Comment va notre cher ami en France, Grandin René de 25 Terres de Chemin des Roses, 97418 Plaine de Cafre, Île de la Réunion, Océan Indien. Meilleures salutations à notre ami Hervé Duval de France. Salut à notre auditeur de Bogota, Colombia, Omar Alfredo Ortiz Robayo. Bien le bonjour en France, Jean-Marie Monplot, de 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, France. Merci d'écouter Voice of Indonesia. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. L'équipe de Voice of Indonesia vous dit un grand merci à tous. Et voici Noah avec la chanson dont le titre est Wanitaku ou en français Ma femme. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Kau lakukan yang kau inginkan. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.